Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et le moment est venu de retrouver Franck Ferrand sur Europe 1 pour déconnecter un peu et rêver d'autre chose. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Pour ce qui est de changer de cadre et d'idée, vous allez être servis aujourd'hui puisque je vous propose de faire un joli saut de quelques 2000 ans en arrière à la découverte d'une des œuvres fondatrices de la civilisation occidentale, un très long poème fondateur signé Virgile, l'Énéide.
Alors dit comme cela, je suis sûre que cela reste un petit peu mystérieux pour nombre de nos auditeurs.
Eh oui, mais le mystère ne me déplaît pas, vous savez, je peux vous promettre en revanche que dans une heure, il restera beaucoup moins de mystère autour de l'Énéide. Nous recevons aujourd'hui deux grands spécialistes de la Rome antique en général et du règne d'Auguste en particulier, spécialement de la vie et de l'œuvre de ce fascinant écrivain qu'a été Virgile. Nous recevons en effet deux maîtres de la latinité, Paul Veyne en personne et Philippe Heuzet.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Les plus vieux chefs-d'œuvre de notre civilisation puisent leurs racines dans la nuit des temps. Je songe évidemment à l'épopée de Gilgamesh, un texte sumérien du 3e millénaire avant notre ère. Il y a la Bible, déjà plus près de nous, et puis les deux grands poèmes épiques attribués à Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Enfin, à l'époque romaine, quelques années seulement avant Jésus-Christ, un grand poème latin fondateur, inspiré d'Homère, et dû au stylet d'un des meilleurs poètes de la fin de la République et des débuts de l'Empire, Virgile, dont nous allons retracer la vie dans un instant. Le poème raconte l'épopée mythique d'Énée. Énée est un Troyen, c'est le fils d'Anchise et de la déesse Vénus. Il va fuir Troie en flammes. Il fuit Troie avec son père sur le dos. Il va faire sa propre odyssée, pleine de péripéties, jusqu'à la péninsule italique, jusqu'au Latium, où il va faire souche. Et quelle souche ! Nous sommes dans la grande légende des origines d'Auguste, 12 chants contenant environ 10 000 vers qu'autrefois des générations et des générations d'écoliers ont appris par cœur. Pour tenter un affreux anachronisme, je dirais de cette Énéide de Virgile qu'elle est un peu l'un des gros best-sellers de l'Antiquité, mais édité à titre posthume, hélas, Virgile n'ayant pas eu le temps d'achever sa grande épopée. Ce qu'il faut peut-être préciser d'un mot, il faut savoir que Virgile meurt en 19 avant notre ère, donc sous le règne d'Octave, l'héritier de Jules César devenu l'empereur Auguste. À cette époque, donc, les livres sont évidemment recopiés in extenso par des armées de copistes, souvent des affranchis, souvent d'origine grecque, sur des parchemins roulés qu'on appelle des volumens, des volumes, si vous voulez, des rouleaux, hein, il faut les imaginer sous cette forme-là, il en existe de toutes les qualités. Plus tard naîtra le codex de parchemin, l'ancêtre de notre livre actuel, plus facile à consulter et à transporter, mais c'est un peu plus tard. Ces ouvrages, en tout cas, sont destinés à être vendus en librairie. Les libraires à Rome font office d'éditeurs. Ils tiennent boutique dans les rues commerçantes des grandes cités. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'un volume entièrement recopié à la main, forcément, coûte cher et même très cher. Alors il existe un autre moyen de faire connaître l'œuvre, et c'est la lecture publique, que les Romains appellent reititatio, et qui est justement mise en vogue par celui qui longtemps aura été le protecteur de Virgile, Asinius Pollion. C'est ainsi, dans la bonne société romaine, à la fin de la guerre civile, on prend l'habitude de se réunir, d'abord dans des théâtres, plus tard ce sera dans des édifices construits spécialement pour ça, qu'on appellera des odéons. On se réunit donc pour entendre lire des œuvres, seulement, évidemment, ces lectures peuvent s'étendre sur des heures entières, parfois sur plusieurs soirées d'affilée. Il n'est guère de jour qu'un Romain cultivé ne soit invité à une lecture, écrit Catherine Salle, qui par ailleurs raconte la dissipation qui souvent finit par s'emparer des auditoires. Gageons qu'à l'écoute des aventures extraordinaires d'Énée, contées savamment par Virgile, on n'avait pas envie de se dissiper. Ce texte va fasciner ses lecteurs et ses auditeurs pendant des siècles et même pendant des millénaires. D'innombrables traductions en ont été proposées dans toutes les langues, et la plus récente en français, c'est celle que nous offre ces jours-ci le grand historien Paul Veyne, traduction publiée par Albin Michel et Les Belles Lettres. Paul Veyne est donc venu nous faire partager son amour de ce texte, et j'ai demandé à Philippe Euzet de se joindre à nous. Il est l'auteur d'une thèse magistrale sur l'image du corps dans l'œuvre de Virgile, et dès lors on peut imaginer qu'il a quelques secrets à nous livrer sur l'Énéide.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités Franck sur Europe 1, Paul Venn qui est professeur honoraire au Collège de France. Il est l'un des plus grands historiens français de l'Antiquité romaine. Et également avec nous Philippe Euzet qui est professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste de Virgile. Il est l'auteur de l'image du corps dans l'œuvre de Virgile aux éditions de Bocard.
Paul Venn et Philippe Euzet pour parler de l'Énéide. Nous sommes gâtés aujourd'hui. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être venus. Alors, Paul Venn, il faut que vous nous expliquiez si cette traduction de l'Énéide, vous l'avez longtemps mûrie, méditée, vous aviez envie de livrer votre propre version de ce très grand poème depuis longtemps ?
Franchement, il n'en est rien. J'ai enseigné Virgile quand j'étais professeur à la faculté d'Aix-Marseille pendant 15 ans. Je ne songeais pas du tout à le traduire. Et puis je me suis trouvé à la retraite dans la nécessité de remplir mon temps et de faire quelque chose qui me plaise. Et j'aime la poésie. Et il se trouve qu'un poète comme Virgile, admiré à la fois par Hugo et par Baudelaire, est un grand poète.
Et par tant d'autres.
Et d'autre part, je me suis souvenu que la première fois que j'ai été en contact avec Virgile, en classe de 4e ou de 3e, c'était pendant la guerre. Les premiers vers qu'on m'a donnés à traduire, immédiatement, cette écriture, pour employer un mot pédantesque, cette écriture poétique qui est sans arrêt au-dessus de la prose, m'était entrée dans le cœur. Le moindre vers de Virgile, le moindre paragraphe, passage de Virgile, s'impose immédiatement au lecteur, même tout jeune.
Oui, et il y a une musique de Virgile en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que cette poésie-là est destinée à être scandée, Philippe Euzet.
Ah, la musique de Virgile et la musique du latin, d'une façon générale, étaient certainement d'une beauté qui, c'est terrible à dire, nous échappe.
Oui.
Parce que c'est une confidence lourde. Nous ne savons pas exactement comment ces vers étaient prononcés, et ni la musique.
Nous disions avant que ne commence l'émission qu'on a toutes sortes de prononciations du latin, évidemment. On a le latin tel qu'il était enseigné à l'école il y a quelques dizaines d'années, ou alors on parlait de façon très française, si je puis dire. Il y a le latin d'église qui se rapproche un peu plus d'une prononciation italienne. On disait que les anglo-saxons ont une prononciation tonique. Et aujourd'hui, il y a la prononciation moderne, que moi je trouve d'ailleurs assez agressive, mais enfin qui a été celle qu'on m'a enseignée effectivement à l'école et à l'université.
Elle terrifie mes amis italiens.
Oui, c'est ça.
Quiquero,
c'est invraisemblable presque, mais bon.
Non, mais alors, l'énigme repose essentiellement sur la musique du vers et sur la question de l'accent du vers. On ne sait pas si, on sait que ça n'était pas un accent d'intensité et c'était donc un accent musical. Et ça, notre gosier n'est pas capable de le rendre. Et c'est terrible parce que
nous ne sommes plus formés à parler cette langue, évidemment.
Et il est à mes yeux absolument certain que cet aspect musical de la poésie des anciens était majeur. Et d'autre part, nous savons par des biographes de Virgile que Virgile avait une voix extraordinaire qui était capable de rendre magnifiques les vers les plus médiocres.
Donc les fameuses recitatio devaient être extraordinaires.
Exactement.
Paul Venn, vous avez donc livré cette traduction. Alors on est habitué aux belles lettres d'avoir d'un côté sur la page de gauche le texte en latin et sur la page de droite le texte en français. Mais là, vous nous plongez uniquement dans le texte en français. C'est presque un livre d'aventure que vous nous proposez.
C'est provisoire.
Ah bon ?
En juillet au plus tard paraîtra en 3 petits volumes dans la collection Budet une Énéide avec un volume de l'équivalent d'un volume de texte latin, d'un volume de traduction et d'un volume de notes purement philologiques. Mais bon, alors je voulais dire une chose. Le drame du latin et du grec, c'est qu'il existait une chose qui n'existe aujourd'hui que dans une seule langue, en malgache. C'est la différence à laquelle nous sommes insensibles des voyelles longues et des voyelles brèves.
Et oui, voilà.
Ceux qui ont de la chance, c'est ceux qui sont malgaches ou bien ceux qui ont le sens du jazz. Ils peuvent se représenter ce qu'était jazzé Virgile.
Le i long, le i bref, etc.
Oh, voilà.
qui fait souvent d'ailleurs la souffrance des étudiants en latin, il faut bien le dire, mais qui fait la beauté de ces poèmes.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut lire, moi je connais la réponse, mais je voudrais que vous le disiez vous, est-ce qu'on peut lire l'Énéide avec passion en 2013?
Je viens de faire l'expérience de la traduction, enfin d'une traduction elle se trouve être la mienne. C'est pour ça que j'ai pu en imposer la lecture à des gens qui m'aiment bien. Et ils m'ont assuré que, passer les 5 ou 6 premières pages où il faut s'adapter à un récit qui n'est pas réaliste, l'Énéide est une héroïque fantaisie.
Oui, c'est ça.
Eh bien, c'est passionnant.
Alors, il faut dire qu'il y a 12 chants dans l'Énéide. Tout à l'heure, on résumera un peu l'Énéide pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce texte, dire ce que raconte ce long poème. Ce qu'il faut peut-être dire, justement, Philippe Euzet, c'est qu'il y en a eu énormément de traductions et que parfois les variantes sont assez minces. D'autres fois, elles sont très typées. Ce sont des traductions très typées.
L'histoire des traductions, d'une façon générale, de l'Antiquité
oui, et pas seulement de l'Énéide,
les traductions de Virgile, absolument fascinante. J'ai eu l'occasion au début de mes recherches de faire une petite évaluation assez lointaine. Et je suis arrivé à la conclusion que depuis la première traduction complète de l'Énéide, qui date du XVIe siècle et qui est l'œuvre d'Octavien de Saint-Gelais, jusqu'à l'époque où je faisais mes recherches, c'est-à-dire avant Klossowski, il y avait eu en langue française une traduction complète de l'Énéide. Je ne parle pas donc
des langues étrangères, ni des extraits de chants. Oui.
En moyenne, tous les 7 ans.
Sept.
Tous les 7 ans. Alors, les conceptions de la traduction varient selon les époques, bien entendu. Un des grands traducteurs de Virgile, c'est Delille, au XVIIIe. Cette traduction, elle est très belle, mais on n'ose plus appeler ça une traduction.
C'est plutôt une interprétation.
Il y a 3 vers latins qui correspondent à 8 ou 9 alexandrins, vous voyez. Alors, on en rajoute, etc. Et Delille dit ceci, qui est absolument extraordinaire. Il dit, quand je vois que je suis obligé d'ôter une beauté à Virgile, pour que le conte soit bon, j'en aurai rajouté.
Ah moi je croyais qu'il en rajoutait 3, je voulais dire ça finit par faire beaucoup. Alors il faut que nous entrions dans la vie même de ce poète. Comment devenait-on poète à Rome à cette époque? On est donc quelques décennies avant la naissance de Jésus-Christ. Comment est-ce que ces poètes s'imposaient? Quelle a été la vie, la carrière de Virgile? Quelle était sa position politique? Ce sont un certain nombre des questions que nous allons nous poser dans un instant.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 à Virgile et au poète latin, Franck.
Est-ce qu'on peut dire, Paul Venn, que Virgile était un napolitain?
On peut dire qu'il était devenu à moitié grec.
Parce que Naples, toute cette région était une région d'influence grecque.
Naples est une ville grecque. Voilà. Et c'est une ville de culture grecque où il y a des professeurs de rhétorique, nous dirions de belles lettres, et des professeurs de philosophie. Et le jeune Virgile, qui a la chance d'être le fils d'un homme du peuple, de la bourgeoisie, mais riche cultivateur, a été envoyé faire ses études à Naples. Il était naturellement complètement bilingue, comme tous les gens cultivés de son époque. Il a suivi des cours de philosophie grecque et il était, et à mon humble avis, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde, il est resté épicurien.
C'est-à-dire, alors quand on dit épicurien, ça ne veut pas dire que c'était un débauché ou un sybarite.
C'est même le contraire.
C'est qu'il il adhérait à la philosophie des épicuriens.
Il faut restreindre la vie au maximum, comme ça on ne souffre de rien. Éviter les émotions.
Se détacher du monde en quelque sorte pour mieux saisir la vie, si l'on devait vraiment résumer à quelques mots cette philosophie-là. Alors, il n'était donc pas d'origine aristocratique.
Sur l'origine de Virgile, nous avons des biographies antiques qui toutes sont postérieures de 4 siècles à la vie de Virgile.
C'est ça, c'est très compliqué.
Et qui sont extrêmement difficiles à interpréter en réalité. Quand on prend un peu de recul et qu'on voit l'exploitation qui en est faite par les différents critiques, on s'aperçoit que chacun pioche ce qui l'arrange dans ses textes et qui correspond à l'idée qu'il se fait du poète. Sur l'origine de Virgile, Donna, qui nous donne la vie la plus complète, nous dit qu'il était d'origine modeste. Effectivement, il y a un certain nombre de critiques qui pensent que c'était impossible qu'un enfant de Viator, comme on dit, puisse connaître immédiatement les grands de la période.
Il va rencontrer tout ce qu'il peut y avoir de plus raffiné dans cette culture de la fin de la République. Hein.
Exactement. Dès l'époque des bucoliques, il est en contact.
Alors, il faut dire, les bucoliques et les géorgiques sont les deux grandes œuvres avant l'Énéide, en fait.
On saurait trop, d'ailleurs, insister sur l'importance de ces deux œuvres. Mm-hmm. D'abord, parce que ce sont chacune dans son genre des chefs-d'œuvre absolus. Et d'autre part, qu'il y a une progression extraordinairement profonde et subtile entre les bucoliques, les géorgiques et les néidiales. Le développement d'une cathédrale, d'une œuvre qui est véritablement un monument de littérature très très complet, très complexe.
Les bucoliques et les géorgiques sont dans la lignée, annoncent déjà l'Énéide ou ils sont sur un autre registre?
Il est évident que ce sont des œuvres dans des genres totalement différents. Mais qu'il est absolument possible, et les choses ont été faites bien souvent, de suivre les fils et d'aller des bucoliques, de l'Arcadie des bucoliques à Évandre l'Arcadien, en passant par l'Arcadien Aristée qui fait renaître les abeilles. Il y a une possibilité comme ça. Mais surtout, il y a l'idée essentielle, j'essaie de dire brièvement, c'est d'occuper le champ de la grande poésie. En prenant à chaque fois pour modèle les plus grands poètes du genre dans la poésie grecque.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que au moment où Virgile écrit les bucoliques, puis les géorgiques, on n'en est pas encore à l'Énéide, on est en pleine guerre civile. Jules César a été assassiné. On sait qu'il y a donc un certain nombre de partis qui se disputent sa succession, à commencer par Marc-Antoine et Octave, bien entendu. Et le protecteur de Virgile est du côté de Marc-Antoine, lui. Ça va avoir une incidence. Probablement Paul Venn.
Oui et non. Je pense que, d'abord, il a existé un milieu littéraire où tout le monde se connaissait plus ou moins. Il n'est nullement invraisemblable qu'un homme qui sort du petit peuple en ce sens que son père n'est pas noble, ni sénateur, ni chevalier, ayant prouvé son talent, soit admis dans un milieu littéraire. Et deuxièmement, pour des raisons non politiques, mais si j'ose dire de snobisme et de goût de la culture, les gens riches, les gens puissants, tenaient à admettre, à avoir pour amis, à faire venir à leur table les gens dont on parlait. Périclès lui-même, dont on dit tant de bien, connaissait, vivait avec les gens célèbres de son temps. De nos jours, si l'on est riche, si l'on est puissant et si l'on a une certaine élévation d'esprit, on se fait un honneur de connaître les grands littérateurs, les grands peintres de son époque.
Alors, Virgile va devoir néanmoins montrer patte blanche à partir d'un certain moment. Il va falloir qu'il donne des gages au nouveau pouvoir, et notamment à Octave qui devient l'empereur Auguste.
Oui, Virgile, on le voit par deux allusions de l'Énéide, était, nous dirions aujourd'hui grossièrement, de droite. Il était pour les optimates et non pour le parti populaire. Mm-hmm. Mais surtout, avec Octave Auguste ayant gagné, on vient d'échapper à un danger épouvantable. Ce danger, on l'appelait pudiquement les guerres civiles, qui ont été en effet atroces. Mais la vraie chose, ça a été le schisme. L'Empire romain se fracassant en deux parties. Un empire en Occident avec Octave, un empire en Orient avec Cléopâtre. Bien sûr, c'est voyant, mais c'est pas Cléopâtre qui importe, c'est Antoine. Voilà Rome coupée en deux, c'est horrible. On n'ose même pas prononcer le nom, on dit pudiquement les guerres civiles. Or, la victoire d'Octave Auguste rétablit l'unité de ce gigantesque empire.
Alors, dans quelles conditions l'Énéide a-t-elle été écrite? C'est ce que nous voyons maintenant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui revient aujourd'hui sur Europe 1 sur les conditions dans lesquelles l'Énéide a été écrite.
J'ai toujours à l'esprit cette image qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant d'un Auguste qui sauvait du feu le manuscrit de l'Énéide. C'est une image qu'on enseignait comme ça, évidemment, chez les apprentis latinistes. Est-ce que, véritablement, cet inachèvement de l'Énéide est dû à des circonstances politiques ou est-ce que, simplement, Virgile est mort avant d'avoir pu mettre le point final, Philippe Heuzé?
Dans les géorgiques où il annonce, il fait part de son projet d'écrire un jour un grand poème, et il nous le dit très explicitement, un grand poème à la gloire d'Auguste, il ajoute « modo vita supersit » à condition que la vie me le permette. Oui. Or, raisonnablement, on peut penser que l'inachèvement de l'Énéide, c'est la maladie qu'il
Il meurt, il a à peine 50 ans en fait.
51 ans.
51 ans, oui.
Il a 51 ans, il est allé faire un voyage en Grèce, on raconte qu'il a eu une insolation à Mégare, qu'il est revenu très malade, qu'il a retraversé vers l'Italie, il est arrivé à Brindisi et là, il est mort. C'est d'ailleurs le sujet d'un magnifique livre d'Hermann Broer qui s'appelle « La mort de Virgile » et qui est une méditation sur ses derniers jours et ses dernières heures du grand poète. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus.
Alors, là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est sur le sens qu'il faut donner à un certain nombre des allusions, car il faut imaginer que ce texte, cette grande épopée homérique, disons-le, est truffé d'allusions, d'indications plus ou moins sous-jacentes, et dont certains auteurs nous disent qu'elles sont parfois à double entente. C'est-à-dire que lorsque, à travers Énée, on vante les origines d'Auguste et l'on vante Auguste lui-même, en fait, parfois, il y a de la critique cachée dans les vers.
Il est certain que il ne faut pas avoir, comme on l'a vu souvent d'ailleurs, en Virgile, un courtisan flagorneur qui est complètement un tapis devant le pouvoir. Pas du tout. Si vous me permettez, un léger indice. À un moment donné, Énée tue, fait des sacrifices à mort.
À un moment donné,
et tue, met à mort, pour venger la mort de son jeune ami Pallas, n'est-ce pas, il met à mort 8 Troyens. C'est la reprise d'un passage de l'Iliade où Achille met à mort 12 Troyens. Chacun commente en disant, vous voyez, Virgile a été un peu plus raisonnable, il a rabattu le nombre des victimes. Mais un de mes amis me suggérait, 8, c'est Octave.
Et voilà.
Et c'est la dénonciation des crimes que l'on attribue à Octave pendant la guerre de Pérouse, où on disait qu'il avait en effet fait sacrifier hostiarum mori, c'est-à-dire comme des victimes, 300 personnages de la ville de Pérouse.
Alors il y a 12 chants dans l'Énéide. En fait, on voit Énée et ses compagnons aborder en Libye, où il est reçu à la cour de la reine Didon qui elle-même avait fui sa Phénicie natale pour fonder Carthage. Et c'est à Didon qu'il va raconter ce qui lui est arrivé, en vérité. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, petit à petit, arrive ce qui arrive. Évidemment, au chant 4, Didon finit par se laisser séduire. Elle, qui restait si fidèle à la mémoire de son mari assassiné, elle finit par se laisser séduire par Énée, et elle tombe, poussée par sa sœur, il faut le dire, Anna, elle tombe très amoureuse d'Énée. Alors évidemment, ça ne peut pas se passer aussi bien. Un des prétendants de Didon s'arrange pour que l'Olympe s'en mêle. Jupiter envoie sur Terre Mercure qui va faire, j'allais dire, qui va, c'est le cas de dire, qui va asséner une véritable mercuriale à Énée et lui rappeler son devoir. Son devoir, c'est d'aller fonder une ville, d'aller fonder une colonie dans l'Italie. Et donc il doit se rembarquer. Énée essaie de le faire discrètement. Didon s'en rend compte, elle meurt d'amour. On connaît cette histoire extraordinaire. Alors ce chant 4 est célèbre. On commence, on ouvre ce chant 4 par la volonté de la sœur de Didon, Anna, de la pousser dans les bras d'Énée directement. « Anna, ma sœur, quels rêves éveillés m'effraient et me tiennent en suspens, reconnaît Didon. Quel hôte surprenant est entré sous notre toit, quelle prestance sur son visage, quelle poitrine vigoureuse. Quelles épaules, oui, je le crois, je ne me trompe pas, sa race est celle des dieux. La peur dénonce les âmes sans noblesse, mais lui, hélas, quelles fatalités se sont jouées de lui, quelle guerre il chantait, qu'il a essuyée jusqu'au bout. » Alors, on la sent de plus en plus fléchir, évidemment, et Didon va tout faire pour séduire Énée plus loin. Voici Didon qui emmène avec elle Énée à travers les rues, lui fait voir les richesses phéniciennes et une cité à sa disposition. Elle commence une phrase et s'arrête tout à coup. La voici qui, à la tombée du jour, veut retrouver le même banquet et, dans sa folie, demande à entendre de nouveau les épreuves d'Ilion. Ilion, c'est trois. Suspendu de nouveau aux lèvres du narrateur. Puis, quand tout le monde est parti, qu'à son tour la lune pâlissante obscurcit sa lueur et que les astres, à leur déclin, conseillent le sommeil, elle reste étendue tristement sur le lit de repas abandonné, seule dans sa maison vide, absente, absent. Elle le voit, elle l'entend. Alors je vous l'ai dit, un prétendant de Didon va rameuter Jupiter qui envoie Mercure rappeler à Énée ses devoirs. À peine les pieds ailés de Mercure ont-ils touché Carthage et ses baraquements qu'il a devant les yeux, Énée en train de fonder des ouvrages de défense et de bâtir des maisons neuves, comme s'il avait l'intention de s'installer définitivement ici à Carthage. Et il lui voit une épée constellée de jaspe fauve et un flamboyant manteau de pourpre tyrienne qui lui tombait les épaules, présent que lui avait fait de ses mains l'opulente Didon en nuançant la trame d'un réseau de fils d'or. Sans tarder, Mercure attaque. Maintenant, tu poses les fondements de la noble Carthage et pour plaire à ta femme, tu construis une belle cité, oublieux que tu es, hélas, de ton royaume et de tes affaires. Le roi des dieux en personne, au gré de qui tourne le ciel et la terre, me fait descendre vers toi du lumineux Olympe. Lui-même m'ordonne de t'apporter sur les souffles rapides ses instructions. Que machines-tu? Que peux-tu espérer à perdre ton temps sur la terre de Libye? Si la gloire d'un grand avenir ne t'émeut en rien, si pour ta part tu ne veux pas travailler à ta propre renommée, aie au moins égard à Ascagne, qui donc est son fils, qui grandit aux espérances de ton héritier Iule, à qui sont dus le royaume d'Italie et la terre romaine. Alors bon, évidemment, j'aurais aimé vous lire aussi ce passage, mais je vais passer. Aîné se laisse convaincre et pour cause, il commence à faire les préparatifs du départ. Évidemment, ça rend Didon malade de douleur. Le pieux aîné voudrait adoucir sa douleur, la consoler, parler pour la distraire de ses tourments. Il ne cesse de se lamenter, ébranlé en son âme par son grand amour. Il n'en exécute pas moins les ordres des dieux et retourne voir sa flotte. Alors les Troyens se mettent à l'œuvre. Sur tout le rivage, ils tirent à la mer de hauts navires. La coque enduite de poids est mise à l'eau. Pressés de s'enfuir, ils apportent de la forêt des rames encore feuillues, des troncs non équarris. Et voilà les Troyens qui reprennent la mer. Didon est proprement désespérée. Elle est tellement désespérée qu'elle invente une cérémonie funèbre. On imagine qu'elle va faire simplement le deuil d'un grand amour. Et c'est son propre deuil qu'elle est tout simplement en train de préparer. Elle avait dit, et voilà qu'au milieu de ce discours, ses servantes la voient qui s'est laissée tomber sur le fer. En effet, elle tenait l'épée, hein, l'épée couverte d'une écume de sang, et ses mains qui en sont aspergées. Ses cris parviennent au vaste salon, la renommée se déchaîne à travers la ville ébranlée. Plaintes, hurlements, ululements des femmes font résonner les maisons, le ciel retentit d'immenses lamentations. C'est comme si à l'entrée d'un ennemi dans la ville, Carthage ou bien l'antique Tyre s'écroulait tout entière, et que l'incendie se déchaînait et déferlait sur les demeures des hommes et des dieux.
Extrait sur Europe 1 de l'ouverture de Didon et Aîné, extrait de l'opéra d'Henri Purcell d'après l'Énéide de Virgile. On en parle dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, compagnie de ses invités, je vous rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui à l'Énéide, à Virgile et au poète latin.
Ainsi donc, Aîné le Troyen va reprendre la mer, il va reprendre son Odyssée à lui en quelque sorte, et lorsqu'il l'abordera dans le Latium, c'est pour y trouver la guerre. Et un peu à l'inverse de ce qui se passait chez Homère, l'Iliade cette fois succédera à l'Odyssée, il va y avoir cette guerre initiatique. Entre-temps, il sera descendu aux enfers, il faut le dire, et c'est peut-être le passage à la fois le plus célèbre, le plus moderne, le plus troublant de ces chants extraordinaires de l'Énéide de Virgile. Alors, j'ai un peu honte d'avoir résumé comme ça l'Énéide à quelques mots, mais c'est peut-être aussi pour donner envie à nos auditeurs d'aller la lire. Est-ce que cette Énéide est le récit d'événements historiques ou est-ce que ce n'est qu'un mythe, qu'une légende, Philippe Hezé?
Ah, je pense que chacun a son opinion, Monsieur Venn a la sienne. Je pense que la légende d'Énée, que raconte en quelque sorte Virgile en l'aménageant à sa façon dans l'Énéide, cette légende ne lui appartenait pas du tout. L'idée des origines troyennes de Rome est une idée ancienne, très ancienne, puisqu'on a retrouvé, vous savez, la fameuse statuette, vous vous souvenez de l'Avinium, qui montre une statuette du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui montre un homme sur les épaules de l'autre, vraisemblablement acquis sur les épaules d'Aîné. On connaissait Aîné déjà à ce moment-là.
Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement l'origine de Rome qu'il s'agit de compter, c'est celle de la dynastie qui vient de s'installer au pouvoir, c'est celle des origines d'Auguste. Il s'agit donc en quelque sorte d'un champ patriotique ou d'un chant politique d'une certaine façon, Paul Venn?
Oui, il s'agit d'un chant de remerciement à l'homme politique Octave Auguste. On n'ose pas encore dire que c'est un souverain, une sorte, un monarque, mais enfin c'est l'homme qui a mis fin aux guerres civiles et surtout rétabli l'unité de l'Empire. Or, cet Octave Auguste est fils adoptif de Jules César, lequel se vantait, naturellement personne n'y croyait, surtout pas lui-même, de descendre de Iule ou Ascagne, fils d'aîné. Et cette légende d'aîné, la légende des origines de Rome, et pas seulement la connaissance d'aîné, ça fait au moins 3 siècles que c'était absolument répandu, populaire chez les Romains, à la suite d'un historien grec qu'il avait popularisé.
Mais les Romains étaient bien conscients qu'on parlait d'une légende, néanmoins.
Oui, non, mais oui. Bien entendu. Mais à cette époque, c'est pas urgent de distinguer la légende de l'histoire.
C'est ça, voilà.
On dit que, et puis voilà, on va pas chercher plus loin, il n'y a pas une, comme c'est l'est depuis le 19e siècle, il n'y a pas une sorte d'impératif d'hygiène intime du cerveau, de se purifier. De... Nous, dès qu'on nous raconte une histoire
très joliment
du passé, on veut savoir si c'est vrai ou faux.
Eh oui,
non, là, c'était pas urgent.
C'est même le thème de l'émission à laquelle vous participez aujourd'hui. Enfin, il y a donc une dimension mythique, généalogique à l'Énéide.
Absolument.
D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'Aîné étant fils de Vénus, ça veut dire que Auguste est divin.
Bien
c'est
sûr,
ça l'histoire.
Bien sûr, bien sûr. Mais alors, ce qu'il croyait est un grand mystère pour Jules César, évidemment. La lucidité du personnage, telle que nous l'imaginons, donne des armes pour ceux qui en font un sceptique. Mais enfin, il avait quand même prétendu, alors qu'il avait 16 ans et qu'il faisait le discours pour la mort de sa grand-mère, qu'il était bel et bien de la famille de Vénus. Laquelle est aussi, il faut bien le dire, la patronne de Rome, aussi, dans la foulée aussi.
Oui, bien sûr. Alors, il y a une dimension, on le comprend, politique, généalogique. Il y a aussi une dimension religieuse, nous dites-vous, Paul Venn, dans ce texte. Il y a quelque chose chez Virgile, il y a un lien particulier avec les dieux.
On pense des dieux ce qu'on veut. Il n'est pas convenable de tenir des propos incroyants. Ça
voilà.
Ne se fait pas.
Voilà.
C'est une question de convenance. Et en outre, il convient d'exécuter scrupuleusement les rites. Virgile le fait, qu'on croit ou pas, peu importe ce qu'on pense, ce n'est pas une religion où il faut croire et professer des dogmes et réciter un credo. C'est une religion où il faut exécuter les rites. Mais par ailleurs, il convient d'ajouter aussi que s'il en est une personne vraiment pieuse, outre l'exécution du rite qui font partie du savoir-vivre obligatoire, il convient, c'est une phrase d'Aristote qui est une phrase clé, d'aimer les dieux comme on aime ses pères et mères. Ça n'a rien à voir avec la grande spiritualité chrétienne, mais c'est un sentiment d'amour familial pour les dieux.
Philippe Osé.
Écoutez, sur cette question, elle aussi très difficile de ce que pensait Virgile. Quelles sont ses opinions philosophiques? Quelles sont ses opinions religieuses? Il y a véritablement des arguments pour plaider pro et contra, comme si Virgile, très lucidement, c'est une idée qui me revient de façon récurrente, n'est-ce pas, avait mis les éléments pour qu'on en discute. Et Virgile aime que son œuvre ne soit pas explicite. Il fabrique le flou. Et on ne sait pas, sur le dernier geste d'Aîné à la fin de l'Énéide, si c'est bien ou si c'est mal. De même que l'homme, face à sa condition, doute de la définition du bien et du mal dans l'ordre de la morale, doute même de la définition de la beauté, de même le lecteur de Virgile, face à cette œuvre extraordinairement calculée et lucide.
Et profonde et mystérieuse.
Ouais, extrêmement profonde.
Il y a une dimension initiatique dans tout ça. Il y a donc cette double odyssée d'Aîné. Il y a cette relation à Didon essentielle, qui est aussi une relation au récit, mais enfin, on va peut-être laisser ça de côté. Et puis, il y a cette descente aux enfers dont je parlais. Il faut arriver à décrypter tout ça. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, évidemment.
À ce propos, d'ailleurs, et Paul Venn l'a bien marqué, une des idées géniales de Virgile, c'est d'avoir imaginé un héros qui progresse, qui se modifie. L'aîné de
du
la
début,
chute de Troie
n'est plus le
n'est
même.
Pas celui qui est Turnus à la fin. Et évidemment, la descente aux enfers est un beau symbole. Ce qui est difficile à concevoir, les théoriciens nous disent, notre héros, surtout un héros d'épopée, il faut qu'il tiennent debout, qu'ils se ressemblent. Sibi constet, nous dit Horace, n'est-ce pas ? C'est la qualité première d'un personnage, au théâtre ou dans l'épopée. Or, Virgile imagine cette idée, j'allais dire, qui nous touche parce qu'elle est moderne, imagine un cheminement, non seulement dans l'espace, mais un cheminement dans la psychologie, dans les convictions et dans l'aventure humaine. Que ce cheminement reflète ce que Virgile a lui-même éprouvé. Jeune épicurien, élève de Ciron à Naples, comme vous l'avez dit, et confronté à des problèmes qui sont posés, malgré tout, dans la catabase, et qui sont posés dans la façon dont il envisage son récit, qui sont des problèmes qui concernent la condition humaine.
Dans la catabase, il faut que vous nous expliquiez.
Excusez-moi, la catabase, la descente aux enfers, le livre 6, c'est ça. Tous ces problèmes, Virgile est peut-être face à la condition humaine, comme il place le lecteur face à son œuvre.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Un soir au Mont Palatin, Titi et tout, pas tous les récupérants, ça se danse, et va des rétro-satana, alléluia, in secula seculorum, ad libitum, in vino veritas, et omnia vanitas, si vis passem parabellum.
Clin d'œil, Michel Sardou sur Europe 1 avec Dixit Virgile. Nous parlons des poètes latins en compagnie de Franck et de ses invités, bien évidemment.
J'imagine, Paul Venn, qu'après avoir consacré tant d'heures à traduire l'Énéide, c'est une œuvre de longue haleine à laquelle vous vous êtes attelé, vous avez cette poétique de Virgile à l'esprit. Est-ce qu'on peut dire que ce sont parmi les plus beaux vers latins? Il y a une beauté de ce texte, une beauté alors cette fois formelle, j'entends bien.
Oui, ce n'est pas une beauté à la façon de certaines odes d'Horace,
oui,
ou chez nous, pour prendre l'exemple le plus illustre et le plus populaire. La densité de Baudelaire, c'est une écriture qui constamment est poétique et au-dessus de l'écriture de la prose.
Au-dessus, c'est-à-dire qu'elle est...
C'est de la poésie, c'est pas
ça.
De la prose.
Ouais, c'est ça.
Et c'est une poésie dense, sans aucun vain ornement, c'est nullement du néoclassique, au contraire, c'est d'une pureté d'écriture qui est au-dessus de tout.
Est-ce qu'il y a des images qui sont propres à Virgile? Est-ce qu'il y a des tournures, des références qu'on ne trouverait pas ailleurs et qui ont fait date en quelque sorte, qui ont fait école?
Tout ce qui me vient à l'esprit pour vous répondre, c'est qu'il y a des figures de rhétorique, des effets,
oui,
qui marquent la poésie et qui constamment reviennent pour rappeler au lecteur qu'il n'est pas en train de dire de la prose. On inverse les termes, on explique que la mémoire garde un monument et non pas qu'un monument perpétue la mémoire, enfin, des choses comme ça. Ils descendent aux enfers, Aîné et sa accompagnatrice. Ils allaient obscurs dans la nuit solitaire. Bon, c'est l'inverse. Virgile veut dire ils allaient solitaires dans la nuit obscure. Mais du coup, ça rappelle au lecteur qu'il n'est pas en train de lire de la prose. C'est usité constamment, mais sans aucun excès. C'est d'une beauté continue et d'une sûreté de goût constante.
Le grand goût de Virgile.
Oui, le grand goût.
C'est ça, on peut parler de ça. Et c'est peut-être ce qui va rendre l'œuvre classique, Philippe Osé.
Alors, que l'œuvre de Virgile soit classique, elle l'est au sens étymologique. Très tôt, elle a figuré chez les anciens dans les programmes, entre guillemets, si la notion de programme peut être appliquée. Et elle était étudiée à l'école. Et depuis, n'est-ce pas, elle est devenue effectivement une référence, la référence classique. Mais j'ajouterais que cette œuvre-là, et c'est un des caractères les plus saisissants quand on étudie sa réception, comme on dit, sur deux millénaires, cette œuvre a une plasticité extraordinaire qui fait qu'elle satisfait des exigences esthétiques contraires. C'est le grand classique. Et Racine nous le dit, j'ai écrit Andromaque à partir
Racine
de l'épisode.
Racine était très marqué, oui.
Racine, de Racine. Et Boileau parle, il dit ce vers fameux, tout l'or de Virgile contre la fausse monnaie du Tasse. Pardonnez-moi le vers exact, mais m'échappe. Et donc, c'est le pilier de ce qui fait de bien dans l'art, sur la définition classique. Mais Hugo arrive Et il dit, quel magnifique poète, et il en fait un héros du romantisme. Baudelaire, avec le Cygne, ce magnifique poème.
C'est-à-dire que les baroques, les symbolistes...
Il est symbolique,
chacun
Baudelaire,
y trouve
Baudelaire
son...
écrit un de ses plus beaux poèmes, je ne sais pas ce qu'en pense Paul Venn. Oh. Le Cygne. Andromaque, je pense à vous, n'est-ce pas? Et toc, c'est la citation d'un passage du livre 3 de l'Énéide. Et on suit ainsi de suite. J'ai eu l'occasion de vérifier que Virgile, évidemment, était encore très 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 important chez les grands auteurs qui précédaient la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui encore, j'en parlais avec Paul Venn avant l'émission. Et il est dans la modification de Butor est construite sur le schéma de l'Énéide. C'est le voyage à Rome. Ces choses ont été étudiées. Elles ont fait la matière de thèse. Et il y a quelque chose de très, très extrêmement intéressant de voir. Donc, ce que j'appelle d'une façon qui n'est pas très satisfaisante, la plasticité de Virgile, il est toujours là. Et on chercherait difficilement une époque où Virgile a quitté la première place et la première scène.
Et est-ce qu'on peut dire que finalement, il ne vient pas à n'importe quel moment? Ce n'est pas un hasard s'il arrive là, dans les années entre Jules César et Auguste. Il vient donner à Rome ses lettres de noblesse, en quelque sorte. En tout cas, il lui donne non seulement son grand poème fondateur sur le plan de la généalogie, de la politique, de la symbolique, mais également son grand poème fondateur sur un plan esthétique. Il va fixer la langue latine.
Oh ben, il est certain que quand on est poète à Rome, et on est soit avant Virgile, soit après lui.
C'est un petit peu notre Corneille à nous, si je puis dire.
Oh, à mon avis, c'est l'influence de Virgile. Alors, rien que dans la latinité est absolument considérable.
C'est Shakespeare
romain.
C'est
très bizarre. Avec quelle rapidité ça a pris. Et une des questions qui se pose, sur laquelle peut-être j'aurai l'opinion de Sévène, c'est la question de son public. Tout ce que nous percevons, c'est que son succès est unanime. Vous avez rappelé à juste titre la difficulté de la publication, le prix des livres, mais ce qu'on oublie, c'est que tout le monde connaissait les poèmes par cœur. Les gens apprenaient les poèmes par cœur, les récitaient. Et lorsque Virgile, l'épisode nous est raconté, mais il est tellement significatif qu'il vaut d'être rapporté, lorsque Virgile entre au théâtre... C'était un homme timide, on l'imagine dans un coin. Il est reconnu par la foule qui lui fait une standing ovation aussi vibrante qu'à l'égard d'Auguste, qui n'en fut pas jaloux.
On retrouve
évidemment de façon magistrale la question de la politique, la question de la poésie, évidemment. C'est un des aspects très importants de cette histoire.
Merci beaucoup, Philippe Heuzet. Je rappelle le titre de votre thèse éditée chez De Bocard, qui donc s'appelle « L'image du corps dans l'œuvre de Virgile ». C'est un ouvrage dans lequel je me suis plongé hier soir, pour tout vous dire, je n'en suis pas encore ressorti. C'est extraordinairement riche, vous avez creusé la question d'une façon incroyable. Et puis bien entendu, pour tous ceux qui voudraient lire l'Énéide, je cherche mon exemplaire, le voilà, édité chez Albin Michel, « Les belles lettres », l'Énéide de Virgile, traduite par Paul Venn en personne. Vous vous êtes inspiré d'autres traductions ou vous avez décidé de faire tabula rasa, si j'ose dire, et de tout reprendre à zéro?
N'en voir aucune. C'était presque un principe. Et puis, essayer d'écrire des phrases rythmées. Je ne veux pas dire du tout que c'est en vers blanc, mais que j'ai essayé de faire à l'oreille que les phrases tombent justes. Et surtout que ce soit le plus bref possible. J'ai 10% de mots de moins que les autres traducteurs.
Si vous me permettez d'utiliser votre expression pour parler de votre traduction, c'est nettement au-dessus.